24 octobre de l'an 79 de notre ère, dans la baie de Naples. Le ciel est bleu, la mer aussi, bien sûr. À quelques encablures, 9 km à peine de Pompéi, se dresse, majestueux, le Vésuve, qui forme un triangle presque parfait sur l'horizon. Le géant est entré depuis longtemps dans un grand sommeil et les habitants qui se sont installés à ses pieds profitent d'une terre fertile et de la proximité de la mer. Si la cité décline un peu en raison de la concurrence du vin gaulois, Pompéi reste un endroit où il fait bon vivre et pourtant... À 13h, le 24 octobre 79, le volcan au sommeil va se réveiller, anéantir la cité et avec elle, des milliers de vies humaines. 24 octobre 79, il est 13h, c'est l'heure H de mon histoire. Avant de nous pencher sur la bouche du volcan Furie, les précisions s'imposent. Car pendant longtemps, ce n'est pas la date du 24 octobre qui était citée lorsque l'on évoquait le drame de Pompéi, mais celle du 24 août. Pour l'UNESCO, qui a classé le site de Pompéi au patrimoine mondial en 1997, c'est d'ailleurs toujours la date du 24 août qui est retenue. Mais alors, d'où viennent les doutes et les conflits qui ont opposé et opposent toujours les scientifiques? L'histoire est passionnante. Écoutez plutôt. De l'année, ça ne fait aucun doute. Les événements se déroulent en 79. L'empereur Titus vient de succéder à Vespasien, mort en juin. C'est Titus, seul maître à bord, qui ordonna que l'on vienne en aide aux personnes déplacées. Mais pour ce qui est de la date, c'est une autre affaire. Car le moment de l'année où Pompéi va disparaître de la carte du monde n'est mentionné que dans une seule lettre, envoyée par Pline le Jeune, âgé de 18 ans à l'époque, à l'historien Tacite. S'il existe diverses versions du manuscrit de la lettre, les moines copistes y contribuèrent, il en est une qui semble être la plus digne de foi. Elle évoque 9 jours avant les calendes de septembre, soit le 24 août. Pourtant, des découvertes successives faites à Pompéi, et ce, dès le XVIIIe siècle, portent à croire que la ville fut détruite en octobre. Lesquelles? Les gens retrouvés dans les cendres portent des vêtements relativement chauds, ce qui, en août, dans la canicule du sud de l'Italie, semble anachronique. Idem pour les restes de brasero que l'on a retrouvés. D'autres détails n'ont pas échappé aux archéologues. Les fruits retrouvés sur le site sont ceux de l'automne. Figues, grenades, châtaignes et pruneaux. En revanche, les fruits d'été étaient déjà séchés, mis en conserve. Une pièce retrouvée dans une boutique a été frappée fin septembre et les jarres de vin étaient déjà scellées, ce qui se faisait généralement en octobre. En 2018, lors de fouilles, une inscription est mise au jour dans la maison dite du jardin à Pompéi. Un simple graffiti, mais d'une importance capitale qui dit le 16e jour avant les calendes de novembre, soit le 17 octobre. Difficile d'imaginer qu'un petit malin serait allé y faire un faux en écriture. Tout porte donc à croire que c'est au Moyen-Âge qu'un copiste se serait trompé dans la retranscription et que son erreur serait arrivée jusqu'à nous et jusqu'à l'UNESCO. La fertile région de Campanie, où se niche Pompéi, sur une langue de lave, est surnommée « Terre des dieux ». Sur les versants du Vésuve pousse une forêt où les hommes aiment à chasser. Il y fait frais quand on étouffe sous le soleil, qui se montre plus que généreux dans la région. Sur les flancs de l'imposante montagne pousse également un raisin réputé qui, chaque automne, est récolté par les esclaves. Le 21 septembre, jour de l'équinoxe, les vendanges ont commencé pour se terminer au coucher des Pléiades, le 11 novembre. On ne rigole pas avec le calendrier chez les Romains. Travaillant sans relâche comme des bêtes de somme, les esclaves, chargés de récolter le raisin, sont attachés les uns aux autres par de longues chaînes aux pieds. En fin de journée, ils regagnent les fermes qui ont fleuri sur les pentes du Vésuve. Depuis quelques années toutefois, il est un petit peuple qui fait de l'ombre à Rome et que les lecteurs d'Astérix connaissent bien, les Gaulois. car si le vin pompéien est bon, celui de la Gaule n'est pas mal non plus. Et la concurrence fait perdre de sa superbe à la cité romaine. La région est riche, certes, mais moins plantureuse qu'autrefois. N'empêche, à Pompéi, on vit bien. La mer est poissonneuse, la terre est fertile. Et c'est encore là, dans la baie de Naples, que l'on trouve les meilleures pierres pour fabriquer les meules à huile du pays. Je vous le disais, une terre des dieux. Et l'un d'eux, Vulcain, le dieu du feu, va piquer une grosse colère à la fin du mois d'octobre. Mais jusqu'ici, tout va bien. Construite par les Grecs et les Étrusques, la ville de Pompéi sort de terre au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont ensuite les Samnites, un peuple issu d'une région montagneuse de l'Italie qui s'y installe. Il faudra attendre 290 avant notre ère pour que Pompéi devienne romaine. Et encore, la cité ne fera réellement partie de l'Empire que 2 siècles plus tard, quand le général romain Lucius Cornelius Sylla en prendra possession après un siège plutôt brutal. Oust ! Allez, dehors les Samnites, on décide d'y installer une colonie romaine qui compte notamment 2000 vétérans de l'armée. Et puisque les infrastructures, les habitations, les routes sont en très bon état et très bien pensées, les Romains s'y installent sans rien détruire. Oh, bien sûr, on sait depuis longtemps que le Vésuve est potentiellement dangereux. 1er siècle avant notre ère, l'architecte Vitruve, à qui l'on devra d'incroyables constructions, l'homme étant un véritable génie visionnaire, Vitruve donc écrit ceci. On dit que les feux qui brûlent sous cette montagne ont autrefois éclaté avec une grande force et jeté beaucoup de flammes dans tous les lieux d'alentour. Oui, mais voilà, il fait bon vivre à Pompéi. Et on préfère croire que le bon gros géant, qu'est le Vésuve, dort à poids fermé et que sa bouche ne bâillera pas de sitôt. Outre les vendanges, en ce mois d'octobre 79, on vaque à ses occupations dans les boutiques tout au long de la rue de l'Abondance, centre névralgique du commerce à Pompéi. Les métiers sont très organisés et variés. Des boulangeries, que l'on dirait aujourd'hui ultra-modernes, côtoient des tavernes, des magasins de colifichets et de verroteries. À l'écart est installée une foulonicae, traduisée foulerie, soit une blanchisserie devant laquelle on a disposé des grands pots dans lesquels les hommes sont invités à venir uriner. Eh bien, quel est le rapport, me direz-vous ? C'est simple. À cette époque, on n'avait pas encore trouvé mieux que l'urine pour blanchir le linge. Mélangées à de l'eau et du soufre, les pièces de drap et autres vêtements étaient piétinées par des esclaves, avant d'être rincées, évidemment. Une grande mixité sociale existe à Pompéi. Les demeures cossues jouxtent les ateliers d'artisans qui, eux-mêmes, voisinent avec des tavernes où l'on vient s'abreuver de ce bon petit vin que l'on fabrique ici. Riches et pauvres se mélangent, même si leur quotidien n'est pas fait des mêmes mets. Pour autant, ce n'est pas toujours le paradis. En été, la chaleur est accablante. D'où l'importance des bains, des thermes et autres piscines où l'on peut tout à la fois se rafraîchir, mais aussi, bien sûr, faire ses ablutions. Si les plus riches possèdent leurs propres équipements, la ville est dotée de nombreux sites accessibles au public. Les riches et les notables de Rome ne s'y sont pas trompés. Ils sont nombreux à avoir fait construire à Pompéi et dans toute la baie de Naples de somptueuses villas. À Herculanum, à Stabie, à Misène, à Oplontis, de superbes édifices dominent le bleu de la mer tyrrhénienne. Des pins parasols offrent de l'ombre. Des cyprès, des palmiers décorent des jardins éblouissants et luxuriants. Ici, l'eau ne manque pas, grâce au génie des architectes et des ingénieurs romains qui l'ont amené jusque dans les foyers, grâce à leur célèbre aqueduc. Celui qui alimente la région est l'Aqua Augusta, l'aqueduc d'Auguste. L'eau, salvatrice, pourtant, va jouer un rôle crucial dans le drame qui est en train de se jouer à Pompéi en octobre 79. H, je vous propose de revivre les derniers instants de la ville de Pompéi, victime de l'éruption du Vésuve, en l'an 79 de notre ère. Plutôt, le 5 février 62, un puissant séisme frappe la région de la baie de Naples, et notamment Pompéi. La ville est détruite. Il y a de nombreuses victimes. La terre tremble, puis un petit tsunami soulève d'impressionnantes vagues. Sénèque raconte qu'un troupeau de 600 moutons est décimé. Les bêtes sont mortes à cause de l'air vicié. Il s'agit plus que probablement de dioxyde de carbone volcanique lié à la reprise de l'activité du Vésuve. Mais on préfère mettre ça sur le compte d'autre chose. Les croyances en diverses divinités sont alors très ancrées. On voit partout la colère des dieux plutôt que des phénomènes ou des catastrophes naturelles. En 62, donc, le Vésuve montre déjà des signes de son réveil. Il ouvre un œil, oserait-on dire, puis le referme. Et on respire à nouveau à Pompéi. On s'attelle à la reconstruction, surtout, puisque le tremblement de terre a fait s'effondrer une partie de l'aqueduc, entraînant la fermeture des thermes. Peu rassurés, les riches romains préfèrent rentrer dans les terres, voire à Rome. Ils revendent leurs villas à des nouveaux riches, souvent des esclaves affranchis qui ont fait fortune dans le négoce, officiel ou non officiel. À cette époque donc, la cité change de visage, et la mixité sociale, que l'on évoquait tout à l'heure, peut vraiment s'installer. Le nombre d'habitants ne cesse de gonfler. En l'an 79, alors que s'approche notre heure H, on estime entre 7500 et 13500 le nombre d'âmes qui ont élu domicile. Sur les chantiers en cours depuis 62, on s'affaire toujours. La ville n'a pas été entièrement reconstruite, mais les esclaves font du bon travail, malgré la pénibilité de l'ouvrage et l'absence de considération. Les artisans reconstituent les mosaïques et autres fresques qui donnent souvent leur nom aux maisons, comme celle de Vénus ou celle du Faune. À la fin de la journée, recrues de fatigue, les petites gens, les plus pauvres et les esclaves, font escale au Lupanar, la maison de prostitution officielle de la cité. Lupanar, du latin lupa, la louve, puisque selon les écrits, ce sont des cris identiques à ceux de ces femelles en chaleur qui s'échappaient des diverses chambres. Régulièrement dans la région, des petites secousses telluriques sont ressenties. La terre bouge un peu comme le dos d'un gros chat qui s'étire après la sieste. Oh, ça n'inquiète personne, on s'y est habitué depuis longtemps. Sauf que, dans les jours qui précèdent l'éruption du Vésuve, les secousses se font plus intenses, plus régulières aussi. Mais une fois encore, on ignore ce signe prémonitoire. Et il y en a d'autres, des signes. Les puits se tarissent car le volcan pompe l'eau des différentes nappes phréatiques de la région. Du coup, les fontaines se vident, les thermes ferment leurs portes, l'aqueduc d'Auguste est soit bouché, soit endommagé suite à un effondrement. Il en est un pourtant qui sent que quelque chose n'est pas normal. Il s'appelle Pline, dit Pline l'Ancien, plus tard, pour le différencier de son neveu Pline le Jeune. Et il est amiral de la flotte romaine à Misène. L'homme a derrière lui une carrière militaire impressionnante. Il a été de toutes les batailles aux quatre coins de l'Empire. Il approche de la soixantaine, il est, disons, corpulent et n'a plus l'allant de ses 20 ans. C'est bien normal après tout. Pline profite de la bonne chère, des bons vins de la région, et surtout il écrit. Car s'il a mené une belle carrière dans l'armée, il est aussi poète, historien de l'art, écrivain, philosophe et naturaliste. Autant dire que l'observation du monde qui l'entoure ne cesse de l'émerveiller, mais aussi de le préoccuper. Dans la villa de Misène, où il vit avec sa sœur et son neveu, Pline le Jeune, donc, Pline l'Ancien, a une vue imprenable sur le Vésuve. S'il a senti la terre trembler, comme tout le monde, en ce 24 octobre, c'est un message de détresse envoyé par son ami Rectina qui va lui faire prendre conscience de ce qui se passe là-haut, sur la montagne. Il est 13h quand Pline l'Ancien sort sur sa terrasse et découvre, abasourdi, une colonne de cendres s'élevant vers le ciel. 13h, c'est l'heure hache de mon histoire. L'homme a beau avoir beaucoup bourlingué, il n'a jamais rien vu de semblable. Le panache éruptif a une forme de pin parasol et s'élève à une hauteur de 30 mètres. Pline n'en revient pas. Il appelle son neveu qui, tout à ses études, est encore au courant de rien. les deux hommes contemplent ce spectacle surréaliste. Une nuée donc apparaissait, qui, par son aspect et sa forme, rappelait un arbre et plus précisément un pin, écrit Pline le Jeune. Et il continue. En effet, dressée tel un tronc svelte, elle semblait étendre ses rameaux. Elle devenait évanescente, s'élargissant, très blanche ici, ailleurs poussiéreuse et souillée par la terre et la cendre qu'elle avait soulevée. Dans un premier temps, c'est le scientifique qui s'anime en lui. Bon, vite, il faut partir, il faut aller se rendre compte au plus près de ce qui se passe là-bas, à Pompéi et sans doute aussi à Herculanum. Pline ordonne qu'on lui prépare un bateau léger. Il veut apporter son aide à son ami Rectina. L'équipage se prépare, mais le volcan se déchaîne et se met à projeter sur la terre des débris de pierres ponces et de cendres. L'amiral décide alors de lancer sa flotte de gros navires pour mettre le cap sur Pompéi, de l'autre côté de la baie. D'autres bateaux, des quadrirèmes, beaucoup plus grands et censément plus solides, sont envoyés vers les villes martyrs avec le fol espoir de pouvoir sauver des habitants qui auraient trouvé refuge sur le rivage. Mais naviguer dans ces conditions relève de l'impossible. Le bateau de Pline est rapidement recouvert de cendres et de ponces. Il faut se réfugier dans la cale avec les esclaves qui rament comme des possédés, mais qui n'avancent guère sur cette mer de pierre. Il faut se rendre à l'évidence. La seule solution est de s'arrêter à Stamir. Avant Pompéi, donc. Car après la cendre et la pierre ponce légère, ce sont maintenant des morceaux d'une pierre bien plus dure qui s'abattent autour du Vésuve. Sous son poids, la colonne s'est effondrée, provoquant une première coulée pyroclastique. Une nuit ardente, un nuage de cendres et de pierres qui dévale à toute vitesse. Le volcan crache, tenez-vous bien, 200 000 tonnes de fragments de magma par seconde. Et la nuée avance à la vitesse vertigineuse de 300 mètres par seconde. Au cœur de cette coulée, on estime la température entre 300 et 500 degrés Celsius. Dans les rues de Pompéi, déjà ensevelies sous les roches et la cendre, celles et ceux qui ont survécu à l'effondrement de leur maison et qui pensaient que le pire était passé, ceux qui, dans un dernier espoir de sauver quelques biens, ont mis le nez dehors, se retrouvent dans la nuit qu'en plein jour. Pline le Jeune écrit. Or, c'était le jour, mais tout alentour une nuit, plus épaisse qu'aucune autre régnait, pourtant atténuée par un grand nombre de feux et de diverses lumières. Mais ce n'est là que la première phase. Pourtant, près de 3 mètres de cônes, de ponces et de cendres obstruent déjà les maisons, les routes et s'engouffrent partout, étouffant tout, laissant la cité dans un état de désolation et de mort. Puis, la nuit ardente déferle, implacable, et emporte habitants et pillards. Oui, dans cette situation insensée, certains en ont profité pour venir vider les maisons dans lesquelles on pénètre désormais par les étages. Pour quelques bustes en marbre, quelques candélabres ou quelques pièces de monnaie, ils ont tenté le diable, le feu et, croient-ils, la colère de Vulcain. Pline l'Ancien, pendant ce temps, est arrivé avec son équipage à Stabir. Son neveu a préféré ne pas l'accompagner. Il est resté à Misène, le cœur serré de voir son oncle, ce grand homme, cet érudit, prendre la mer et braver, une fois encore, les dangers. Dans des conditions dantesques, le navire parvient à s'approcher du rivage et l'équipage, esclave compris, réussit à débarquer sur une plage où la cendre a remplacé le sable. Mais cela, il le voit à peine, tant le nuage obstrue tout espoir d'apercevoir le soleil. Pline assiste à la première coulée pyroclastique. Il continue à dicter à son secrétaire le compte-rendu de ce qu'il observe. De là, du rivage ou au cœur de Pompéi, où les survivants tentent de fuir par tous les moyens, on observe les lueurs de la coulée rouge, flamboyante, et on les prend pour des incendies. Pline le Jeune, à qui l'on doit des descriptions fondamentales des faits, écrit encore ceci. De l'autre côté de la baie, une nuée noire et horrible déchiré par des tourbillons de feu, laissait échapper de ses flancs entrouverts de longues traînées de flammes semblables à d'énormes éclairs. À 4,5 km de Pompéi, à Stabie, sur la plage, Pline l'Ancien retrouve son ami Pomponianus. Avec sa femme et ses esclaves, chargés de coffres, de vaisselle, de chandeliers, de marbre, il attend que l'on embarque tout sur un bateau afin de prendre le large. Il est prêt à lever l'ancre et à fuir cette région de malheur. Pline, qui vient d'affronter la mer, sait que cela sera rigoureusement impossible. Une fois passé la gangue de pierre, c'est le vent du large qu'il faudra affronter. Une pure folie. Tout le monde s'en retourne alors dans la villa de Pomponianus. Cette dernière a beau être majestueuse, elle n'en est pas moins fragile. Et les pierres qui s'abattent à chaque nouvelle exhalaison du Vésuve ne vont pas tarder à la faire s'écrouler. On fait donc demi-tour, dans le plus grand désordre. À la lueur des torches, la troupe se met en branle, chacun s'attachant un oreiller sur la tête pour se prémunir des chutes de pierres. Retour sur la plage. Les voiles du Quadrirem servent d'abri de fortune. On repousse régulièrement les pierres ponces qui viennent s'y poser. On y voit goutte et pourtant, l'aube n'est pas loin. Le volcan ne décolère pas. Chaque nouvelle colonne verticale, lourde de milliers de tonnes de déchets, de pierres et de gaz, semble plus haute que la précédente. Et à chaque fois, elle retombe en une nuée pyroclastique, elle aussi, plus violente que la précédente. Durant les 2 jours que va durer l'éruption,